Ah, bah merci Monique au 01 43 71 89 40. Ah, si vous saviez, Monique, comme mon cœur a battu et mes nerfs étaient en feu là. Vous n'étiez pas là d'ailleurs. Il y a trois quarts d'heure environ, coup de téléphone de Mariam qui me dit colis piégé sur le RERB, je ne sais pas comment je vais faire. Alors bon, voilà. J'avais commencé, non pas pour la remplacer, parce qu'elle est irremplaçable, à vouloir parler d'un livre de Franck Ballandier, Sing Sing. C'est un livre qui concerne la musique dans les prisons. Et puis là, miracle des miracles, elle est arrivée. Vous connaissez Monique en cabine, hein,
bien sûr.
Alors, j'ai des excuses à lui faire, parce que pendant le confinement, comme ça, j'ai repassé des émissions, dont celle qu'on a fait en 2017, mm-hmm. C'est ça.
Plusieurs,
et puis, je m'aperçois que j'ai des choses qui sont parfois pas très gentilles, ou alors qui sont un peu fausses sur Monique. Alors, je tiens à dire que c'est faux, on ne peut pas la rencontrer au Balajo tous les samedis soirs à partir de 16h, mais bel et bien à la Boule Noire, c'est place de Clichy, le dimanche, en fin de matinée, c'est la première des choses. Là, c'est clair et très clair. Bon, Marianne Majidi, plaisir.
Plaisir réciproque. Je suis très heureuse de faire une nouvelle émission à propos de ce deuxième roman.
Pour que je m'aime encore.
Voilà.
Donc, alors, on va mettre les choses au clair. C'est bien Mariam, M-A-R-Y-A-M, puisqu'il y a un abruti qui est Majidi après, ça c'est vous. Il y a un abruti qui est en train de peupler, puis j'ai envie de dire une saloperie, qui est en train de peupler toutes les ondes actuellement, qui a décidé qu'il n'y aurait plus de prénom étranger. Du moins, il fallait un prénom français avant, par exemple. On a un ami qui fait des émissions sur Radio Libertaire qui s'appelle Mohamed. On va l'appeler Bernard Mohamed. Et j'ai décidé Denise Mariam. On est tombé dans le crétinisme absolu.
Alors oui, crétinisme absolu inquiétant, j'ajouterais, parce que je pense qu'on lui donne beaucoup trop de valeur et d'importance, mais en même temps, je comprends l'inquiétude qu'il suscite. Hein, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer cette portée médiatique, cette importance médiatique qu'on lui accorde. Il y a quelques jours encore, qu'il était en tête de vente... par rapport à son livre, franchement, moi, ça m'a profondément déprimée, ça m'a profondément inquiétée. Donc, je pense que ce sont pas... il faut pas le sous-estimer en disant ce n'est qu'un agitateur et qui passera son chemin.
C'est ce qu'il représente et qui est dans l'air du temps, surtout.
Il est cet agitateur. Je pense qu'il est extrêmement malin et intelligent. Il sait pertinemment sur quoi il faut tabler, sur quoi il faut miser, là où ça fait mal, il enfonce en plein dedans son doigt. Donc c'est quelqu'un qui incarne, je dirais, toute la partie sombre de la France. Et c'est ça, moi, qui me fait mal au cœur.
La semaine dernière, nous avons traité à cette table, à ce micro, de révisionnisme, de négationnisme. Et nous avions, là, au niveau de l'humour noir, un ami qui est né avant la guerre. Et sa mère n'a pas voulu l'appeler Philippe, parce que c'était à cause de Philippe Pétain. Alors, elle l'a appelé Pierre. Mais quand elle l'a appelé Pierre, c'est Pierre Laval qui est venu au pouvoir. Et donc, on parle de tout ça, etc. Et je rentre le soir chez moi, je prends un café, je mets la radio et j'apprends que l'ami Zemmour, qui n'est jamais venu sur Radio Libertaire, qui j'espère ne viendra jamais, vient de déclarer que c'était que Pétain avait sauvé les Juifs.
Oui, mais enfin, il déclare un peu ce qu'il veut, hein, c'est-à-dire qu'il réécrit totalement l'histoire, il réécrit la sociologie, il prend en fait, si vous voulez, un prisme et un point de vue qui est extrêmement controversé, qui est faux. Et donc, ce qui m'inquiète, moi, c'est pas tant l'individu Zemmour, c'est encore une fois le fait qu'on le lise, le fait qu'on l'écoute. Je me dis que vraiment, il y a un malaise, il y a un profond malaise en France pour qu'un homme pareil, avec des idées pareilles, puisse avoir autant de succès. Mmh. Alors, en plus, notre inquiétude est liée aux élections présidentielles, évidemment, puisqu'il y a tout un système, une stratégie qui est mise en place. Il sort son livre avant, etc. Les élections sont dans quelques mois. On ne sait pas si... Alors, il joue en plus avec cette hésitation, cette incertitude. Je verrai quand je dirai que je me présente ou pas. Tant que c'est dans mon intérêt, voilà, je garde le silence. Vous voyez ? Donc, on a vraiment affaire à un stratège qui est en plus, vraiment totalement décomplexé. Oui,
il est pas venu comme ça, c'est une chose de longue date. Là, j'ai un article qui concerne une députée de la France insoumise, Danielle Obono, que Valeur Actuelle, qui est un journal d'extrême droite, avait représenté en couverture avec un collier d'esclaves, à l'état d'esclave. Mmh. Là, il y a eu un procès, ils s'en sont tirés avec 1 500 euros d'amende. Qu'est-ce que ça veut dire, 1 500 euros d'amende pour des gens comme ça? C'est-à-dire que l'air du temps est là. On est dans l'ère du temps.
Oui, l'ère du temps est là et je trouve qu'on a un peu tendance à, justement, c'est ce que je disais en début d'émission, à sous-estimer ce genre de phénomène ou ce genre de, voilà, d'événements, ce genre de faits, parce qu'on se dit, mais non, la France, c'est pas possible, elle peut pas aller vers ça, mais en fait, elle y va. Elle y va à fond, elle y va à très grande vitesse. Mmh. Et donc, ça commence par des petites choses comme le prénom, vous en parliez tout à l'heure. Ça commence par cette caricature, ça commence par des propos qu'on n'aurait jamais entendus avant, en fait.
Quand on sait que l'histoire contemporaine, ce qui s'est passé en 36, on se retrouve en 40, il n'y a que 4 ans d'écart, c'est un truisme, mais ça a été effectivement très rapide.
Ça a été très rapide. Et puis tout à l'heure, vous disiez, il n'est pas sorti de nulle part, mais Macron non plus n'est pas sorti de nulle part. On voit bien en plus que c'est toujours le même cas. En plus, on se fait tellement avoir, en fait, en tant qu'électeur, électrice par rapport à ça, c'est que toujours quelques mois avant une élection présidentielle, on nous agite la menace de l'extrême droite. Et moi, je suis vraiment en train de me dire combien de temps ça va durer, ça. C'est-à-dire qu'on nous prend en otage, réellement, on prend nos votes en otage, on ne mise que sur la peur. Et donc, je suis vraiment en train de me demander si c'est digne des Français de telle manipulation et de telle stratégie électorale.
C'est pas seulement français, Mariam, je ne sais pas s'il y a 15 jours, c'est la première, à Budapest, la première réunion ouvertement, j'ai envie de dire, même nazie, avec Orban, avec Zemmour et avec Marion Maréchal Le Pen, qui s'est produit. L'un des derniers, c'est global, on est en plein dedans, dans le voyage. Choses déjà, c'est bien.
Ouais.
Avant, on va écouter un peu de musique et puis on va plonger dans votre livre, on est là pour
avec
ça.
Avec plaisir.
Il faut quand même que je vous raconte quelque chose, c'est que en réécoutant notre émission de 2017, je me suis aperçu que j'avais critiqué ou j'avais émis des doutes quant à la couverture de votre premier livre, qui était...
La première couverture.
Oui, le titre, c'était... Marx et la poupée. Et figurez-vous que j'étais pas très convaincu.
Par la couverture ou par le titre?
Par la couverture.
D'accord. C'était une
télévision.
Ouais, c'était un enfant dans une télévision cassée, enfin voilà, qui ne fonctionnait plus, avec un... Alors, je ne sais pas si c'est un jouet, mais en tout cas, ça représente un fusil, une arme, quoi, dans les mains.
Et donc, je l'ai revu par inadvertance, dans un endroit, c'était dans un hôpital, j'allais visiter quelqu'un, elle était là. Alors, je vais vous charger d'une mission, vous direz à M. Benoît Virot que pour une fois, il a eu du goût et la couverture correspondait très bien. Vous me ferez ça pour moi?
Bien sûr, mais alors, c'est moi qui m'étais orientée vers ce photographe, Arthur Tresse, et ensuite, on a choisi avec Benoît cette photo-là.
Par contre, la couverture de votre nouveau livre, Pour que je m'aime encore, figurez-vous que on m'a demandé il y a deux jours ce que je faisais comme émission lundi. Et j'ai dit que je recevais une danseuse, je dis votre nom, et on me répond, tu reçois une danseuse orientale. Et j'ai dit, oui, c'est exactement ça, ça on va y revenir, c'est par rapport à votre écriture, parce que c'est très léger, ça flotte, et en même temps, c'est très grave, Et votre couverture, on voit une danseuse au milieu.
Ah oui, mais elle alors, c'est pas du tout une danseuse orientale. Hein. C'est une danseuse de ballet, voilà, enfin classique.
C'est vous qui avez choisi la couverture.
Oui, c'est une photo de JR. Moi, je savais que JR avait, enfin, je suis le travail de JR. C'est un artiste que j'aime beaucoup. J'avais suivi son travail au niveau des photos qu'il avait prises à Montfermeil, hein, dans la cité des Bosquets, puisqu'il vient de cette cité. Et donc, j'avais parcouru son travail, dans cette cité avec les danseuses du Ballet de Paris. Donc, il avait invité, convié à venir danser au milieu de cette cité. Et puis, je continuais de chercher. J'avais pas encore trouvé cette perle rare hein, pour faire la couverture. Et soudain, je tombe sur cette photo qu'il a prise au Havre, dans le port du Havre. Et on voit cette danseuse ballerine qui saute, enfin qui a un envol comme ça, très beau.
Entre des containers.
Au milieu de containers.
C'est un montage ou pas ?
Non.
C'est pas un montage.
Alors justement, j'ai un doute maintenant parce que j'avais lu qu'effectivement, donc, les artistes étaient venus dans le port du Havre et je pense que c'est un montage. C'est-à-dire qu'il a pris la photo et il l'a mise sur ce container.
D'accord. Voilà. On va écouter un petit morceau morceau de musique et après on va revenir Marianne Maggini. En fait, vous êtes auteur, est-ce que vous êtes auteur avec un E, écrivaine ou vous foutez complètement l'écriture inclusive ?
Auteur E, autrice ou écrivaine, ouais, mais pas auteur sans E quand même, faut pas pousser le bouchon. Ouais,
ça vous intéresse l'écriture inclusive ?
L'écriture inclusive, non, mais féminiser les professions, oui, bien sûr.
D'accord. Monique.
C'est à l'heure où les loups sont chiens. Dans un bar du quartier latin, où je gagnais mon chante-pain, que j'ai vu Madame Seguin. Je vivotais à Montparnasse, elle fleurissait à Saint-Germain. Elle était dans sa robe noire, plus blanche qu'un blanc reposoir, et cette rose en tissu noir, qui n'était vieille que d'un soir, m'a fait chanter sans le savoir. La plus belle de mes chansons, en conjuguant dans son regard l'étendue verbe se revoir. C'est entre l'aube et le matin, lorsque coulait le dernier vin, qu'elle a brouté entre mes mains, comme la chèvre de Seguin. L'herbe est si tendre le matin, de Montparnasse à Saint-Germain. Autour de nous les gens riaient et trinquait à notre bonheur. Nous ne savions plus qui était l'oiseau blessé qui le chasseur. Et j'ai tenu sans le savoir entre mes doigts de beau parleur le plus bel amour qui se soit jamais offert à un osseur. À l'heure où le cerne retient la nuit sous le vieux fond de teint, vous m'avez glissé dans la main Madame Michel Seguin. Depuis je sais qu'il y a très loin, de Montparnasse à Saint-Germain, vous aviez en robe du soir la grâce exquise d'un renoir, et cette rose en tissu noir qui hésitait sur le trottoir m'a fait chanter sans le savoir la plus bête de mes chansons, en lisant dans votre regard qu'il ne faudrait plus vous revoir. C'est à l'heure où je m'en reviens à Montparnasse le matin, qu'en regardant vers Saint-Germain j'en vis ce bon monsieur Seguin. Mais je sais qu'il y a trop loin, de Montparnasse à Saint-Germain, de Montparnasse à Saint-Germain, de Montparnasse à Saint-Germain.
Maintenant, Monique, promis, nous ne ferons plus du tam-tam sur la table. Nous sommes au 01 43 71 89 40 avec Marianne Maggidi pour Que je m'aime encore, les éditions Le Nouvel Attila. Avec une mise en garde, Pour commencer, ce livre est une œuvre de fiction. Par conséquent, toute ressemblance avec des situations réelles ou des personnages existants ou ayant existé n'est ni fortuite ni involontaire. Bon, ça c'est une ruse.
Bah oui, c'est une ruse. C'est une parce ruse. Que moi j'aime bien jouer sur ces frontières très fines hein, entre la fiction et le vécu, la fiction et l'autobiographie. Donc je me suis dit que... Alors ça c'est un clin d'œil à Hemingway qui... écrivait souvent sur la première page de ses livres, voilà. C'est une œuvre de fiction, donc, mais en même temps, c'est pas un hasard s'il y a des ressemblances avec le réel ou la réalité. Et donc, moi, j'avais envie de jouer là-dessus parce que, en plus, c'est pas juste une pirouette comme ça, un petit peu drôle. C'est la vérité. C'est-à-dire que je sais plus. Je sais plus ce qui a été réellement vécu tel quel.
Pas trop vite, parce que c'est le nœud de ma lecture. Là, c'est le nœud de ma lecture.
D'accord.
La ruse est grossière.
La ruse est grossière.
Je veux dire que tout ça, c'est un. Vous savez l'écriture. Maintenant, vous êtes grande.
Ça y est.
Je pense. C'est un exercice de mémoire, mais vous savez très bien que la mémoire. C'est un carrefour. Il y a ce que vous avez vu, ce que vous avez été, ce que vous avez rêvé, ce qui a été déformé, etc.
Totalement.
Et voilà. Et que l'écriture, donc dire qu'une chose est biographique, on va dire, moi je vais aller très très lourd aussi, dire qu'une chose est biographique, c'est une bêtise. C'est forcément vous. C'est forcément vous, mais si en même temps, c'est pas autobiographique, quoi.
Alors, c'est ça, c'est parce qu'en fait, moi, j'aime bien l'entre-deux, d'une manière générale. Je crois que c'est là où je me sens le plus à l'aise, dans l'entre-deux. Donc là, je me suis dit, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont clairement inventées hein, dans ce livre, et d'autres qui ont été vécues. Donc comment on joue sur cet entre-deux-là et j'ai trouvé ça, je trouve ça en fait hyper intéressant de faire croire que...
C'est une recherche de vous-même,
oui.
Quand vous aviez 14 ans, c'est ça?
Oui, c'est une recherche de moi-même, mais c'est aussi une construction d'un nouveau personnage qui est cette héroïne, qui est un peu mon double, qui est même pas un peu, qui est mon double littéraire, et qu'on voit grandir. De ses 10-11 ans à ses 18 ans, voilà, à peu près. Ça prend cet espace-temps, alors...
Mais une héroïne qui maintenant écrit, et qui est parfaitement informée de la littérature, et qui a une culture, et qui sait très bien ce qu'elle fait.
Oui, il y a le regard adulte,
voilà.
Il y a le regard de celle qui écrit sur le personnage, évidemment. C'est ce recul-là, moi, justement, qui m'intéresse. C'est-à-dire quand on se penche sur son passé avec le regard du présent. Hein. Et oui, bien sûr, c'est ce que j'ai essayé d'explorer. Voilà, avec
dans les livre. Années 70, André Ardelais a écrit, je crois que ça doit être un des derniers livres censurés en France, Lourdelente. Et Lourdelente, c'est le pouvoir giscardien qui lui a fait un procès. Et dans Lourdelente, il a 6, 7 ans, 8 ans, et il a une nourrice, une dame qui s'occupe là. Et c'est Germaine, et elle est grande, elle est bien en chair, elle est Lourdelente. Elle l'amène au bord de la rivière.
D'accord.
Au bord de la rivière, et lui, il est tout petit, il est fasciné. Et toute sa vie, il va rechercher par l'écriture, voilà, on en est dans la mémoire, cette mémène, cette germaine.
Ah ouais, c'est hyper touchant.
Voilà.
C'est très touchant, mais je pense que c'est vraiment cette écriture-là qui m'intéresse.
Et on revient au dernier chapitre de votre livre.
Ah, carrément, on fait
un saut. On va y aller dedans. c'est ce que vous faites, c'est-à-dire vous recherchez une enfance dedans. Quand vous jouez au Lego, à un moment donné, vous avez fait tout un cheminement et tout, vous vous retrouvez en train de jouer au Lego comme un petit gosse.
Ouais, mais ce passage, en fait, il est tragique.
Oui, bien sûr.
Il est tragique parce que c'est effectivement un saut vertigineux vers l'enfance. Elle se retrouve à l'âge de... comme si elle avait 6 ans. Elle joue au Lego avec son frangin. Mais dans ce saut, il y a la chute. Hein, la chute où elle tombe de ses rêves d'ascension sociale. Et comme il y a une éclipse, c'est-à-dire c'est comme si tout ça n'avait pas existé, toute cette scolarité, de très bon élève, avec de très bons bulletins scolaires, finalement ça n'avait servi à rien. En tout cas, c'est comme ça qu'elle le ressent. Évidemment que moi aujourd'hui, c'est pas du tout ce que je pense, mais l'héroïne le ressent de cette façon-là.
Mais ça veut dire aussi que l'écriture permet de nier L'écriture permet de nier.
Oui.
Aussi bien un fait que ce que vous avez été.
Oui, oui, permet de nier, permet de suraffirmer aussi quelque chose. C'est toutes ces transformations, si vous voulez, ces modifications du réel qui, moi, m'intéressent. Mmh. Par exemple, ça, les livres qui commencent par dire c'est un récit autobiographique et je suis extrêmement sincère dans ce texte, j'y crois pas. D'accord. C'est pas vrai.
Oui, oui, on est absolument d'accord.
Bah oui, c'est pas vrai.
Vous savez qu'Aragon, qui était un fiché.
Le mentir vrai d'Aragon.
Le mentir vrai, bien sûr. C'est en 56, alors qu'il est au Parti communiste et que les chars russes sont entrés à Budapest, là. Il va, en trois lignes, il va réussir à nier ce qu'il a été. Il dit, il n'y a jamais... Dans le texte, je crois qu'il dit, il n'y a jamais eu la guerre. Il n'y a jamais eu le mouvement Dada. Il se nie, en trois lignes ou deux lignes, il nie sa propre histoire.
Ouais.
Ça, c'est le luxe du langage et de la littérature.
Alors, c'est en même temps, je trouve... Après, il faut, je pense, pour chaque chose, replacer dans son contexte, évidemment. Mais c'est une affirmation absolue de la liberté que de dire « je prends la plume et je décide d'écrire et de faire ce que je veux ». C'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher à un auteur le manque de véracité ou l'importance de la modification. On ne peut pas reprocher ça à un auteur. Il fait absolument ce qu'il veut. On n'a pas de compte à rendre en littérature avec qui que ce soit. J'écris un essai, c'est pas la même chose, vous voyez. Mais un roman, une fiction, une autobiographie, une autofiction, vous les appelez comme vous voulez, on a de compte à rendre à personne, quoi. Et moi, j'en peux plus aussi d'entendre tout le temps une espèce de moralité qui vient de plus en plus creuser son nid, là, s'installer en littérature, et on juge de la valeur morale des œuvres. Non. Non, je suis désolée. Si je veux écrire un livre sur une prostituée et la décrire comme étant pleinement heureuse dans sa profession de prostituée, j'ai le droit. Personne ne peut me dire « Ah non, mais là, c'est pas moral. » Non. Et je crois qu'il faut faire très attention à ça. C'est-à-dire se dire que c'est une terre de liberté avant toute chose, quoi. Et d'esthétique.
C'est pas moi qui vous dirais le contraire.
Et d'esthétique, parce que.
Mais c'est pour ça que
on peut dire qu'un livre est mal écrit, mais on ne peut pas dire qu'il ne soit pas moral.
Je recevais une danseuse orientale parce qu'à aucun moment votre livre ne manquera d'esthétisme. C'est-à-dire que la langue, elle tombe juste, elle tombe. Il y a pas de bâclé.
Ah bah ça me fait plaisir.
Il y a pas de
bâclé.
Non, mais vous pouvez. Moi, je crois, je reçois du service de presse, il y a du bâclé. Hein.
Ouais.
Il y a du bâclé, des choses qu'on va dire comme ça. Donc il y a un narratif, et là. Qui est pris par la langue. Et on se demande, des fois, et vous allez voir où je veux en venir, à quel moment vous n'auriez pas pu basculer dans une certaine dimension, et vous ne l'avez pas fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes là en face de moi, et vous racontez l'histoire d'une petite fille qui a quel âge? 8 ans, 9 ans? Quand elle est toute velue, quand elle est toute poilue?
Ça commence, elle a 10-11 ans. Quoi.
10-11 ans. Donc elle est inquiète, parce qu'elle est tyrannienne, donc voilà. Elle est tyrannienne, elle craint d'avoir des sourcils à la Frida Kahlo, qui est quand même la chose superbe.
Mono sourcils, ouais.
Hein, quand même superbe. Il faut dire aussi que ce qui fait tout l'érotisme de Frida Kahlo, c'est aussi ses sourcils.
C'est son côté velu aussi.
Son côté velu, voilà. Et là, elle essaye par tous les moyens d'enlever ses poils.
Ouais.
Elle se compare même à un petit animal.
Ah oui, c'est d'accord. Carrément. Et l'animal, les poils, elle dit, c'est l'animal en moi.
Voilà. Et là, je me suis demandé, est-ce que ça allait basculer dans le fantastique ou rester dans le réel.
Quand vous dites, je comprends pas trop comment, quand vous dites basculer dans le fantastique, c'est-à-dire des phénomènes surnaturels une sorte de Frankenstein.
Voilà, parce que c'est
en féminin.
C'est à peu près le mot que vous dites, vous en parlez à un moment donné, oui.
Ouais. J'aurais pu effectivement prendre ce parti-là, mais moi, ce qui m'intéressait surtout, ce n'était pas tant les histoires de poils ou d'épilation, je pense que les lecteurs l'auront compris, que la représentation de ces poils, de ce monosourcil, de sa moustache, dans le regard d'un occidental, d'un européen, d'un français. C'est-à-dire que c'est pas seulement une question de transformation du corps à l'âge adolescent. Ça, on est tous passés par là, les blonds aussi bien que les imberbes, que les poilus, que... Enfin, je veux pas qu'on réduise cette histoire de poils à cela. C'est plus que ça. Elle dit à un moment donné que ses cheveux qui sont hyper crépus, hyper bouclés, etc., c'est la métèque en elle, c'est l'étrangère en elle. Que cette peau, c'est justement ce qui la renvoie à l'iranienne. Et c'est cette iranienne, en fait, qu'elle veut éradiquer. À travers les poils, à travers le monosourcil, à travers toutes ces séances d'épilation, de défrisage, etc. C'est pas juste parce qu'elle est adolescente et qu'elle n'accepte pas bien son corps. Ça va plus loin, c'est du racisme intégré.
Bien sûr.
Il y a du racisme intégré en elle.
Alors, j'ai envie de dire, c'est pour ça que ça ne tombe pas dans le fantastique, vous restez dans le réel.
Ah oui, puis dans le social, c'est-à-dire que...
Ouais, j'allais même dire quelque part dans le politique. Alors,
Voilà. Social et politique vont toujours ensemble, hein, sont de
quand
très
vous
grands
dites,
amis.
J'étais à la fois homme et femme, ou bien ni l'un ni l'autre.
Ouais, androgyne raté.
Tout comme j'étais à la fois française et iranienne, et au fond, ni l'une ni l'autre.
Ouais.
Cet entre-deux, cet état informe, flottant et indéterminé, me rendait dingue. J'avais 16 ans et il fallait trancher.
Ouais, fallait choisir son camp, quoi. Mmh. Mais c'est étrange en même temps, parce que cette injonction qu'elle exprime de cette façon-là, ce n'est pas la sienne, c'est l'injonction de la société. Mmh. C'est un impératif de la société française à ce moment-là dans sa vie, on est dans les années 90, à devoir choisir. Alors, je ne veux pas encore reparler de Zemmour, mais enfin, le prénom français, quelque part, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle, elle se rend compte qu'elle a un prénom et un nom étranger, qu'elle a une tête d'étrangère, et elle a le sentiment que pour réussir, il va falloir éradiquer tout ça. Et donc, c'est du racisme intégré, et c'est une sorte de super-intégration qu'elle vise. Vous voyez ? C'est tous les travers d'une société qui cherche à assimiler les autres cultures pour parvenir à une seule culture dominante.
Mais ce livre, je l'ai lu il y a un mois, quand on a commencé à parler de Zemmour, et ma lecture n'aurait pas été la même 2 ans auparavant.
Mmh.
Je le trouve extrêmement d'actualité, pas seulement pour le prénom.
Ouais, c'est un miroir, c'est justement... comment on pourrait dire, c'est sur le plan intime, personnel, c'est exactement l'exemple de la souffrance, en fait, qu'on s'inflige quand on a intégré en soi les thèses racistes. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, on voit à quel point elle est malheureuse. Sa séance de défrisage finit à l'hôpital. Sa peau est complètement défigurée.
Et c'est pas sans humour, hein, je tiens à vous le dire.
Ah oui,
voilà,
oui.
C'est pas sans humour.
Avant, on va en parler justement de l'humour, parce que c'était très important pour moi que justement, le ton soit humoristique.
Alors, l'humour, je vais vous dire que c'est un humour inquiétant, parce que juste les pages, alors là vous allez documenter des gens qui ne savent absolument pas ça. Alors, je suis allé voir un médecin avec ma mère qui tenait absolument à m'accompagner car ce machin l'androcure. Alors, qu'est-ce que c'est que l'androcure ? Et vous tombez sur un médecin. Alors, vous n'avez aucun problème de pilosité, je veux dire aucun problème hormonal qui causerait la pilosité anormale qu'on nomme l'hirsutisme.
Oui.
C'est très drôle.
Mais c'est hyper drôle parce qu'elle, elle est convaincue. En fait, on avance par palier. Donc le premier palier, ça a été l'épilation. Bon, ça foire parce que ça repousse, encore plus dru, encore plus vigoureux. Et il faut viser un autre palier. Les méthodes iraniennes d'épilation ne marchent pas non plus forcément. Et là, carrément, il faut aller vers une méthode médicamenteuse, quoi. Vous voyez ? Et donc, androcure, c'est en fait ce qu'on donne vraiment aux femmes qui ont un taux d'hormones mâles excessivement élevé en elles et qui ont vraiment de la barbe, vous voyez ? Donc, ce n'est pas du tout son cas, mais elle est persuadée que ça va agir. Et donc, elle va, comme elle est très déterminée, elle réussit à se faire prescrire de l'androcure, ce qui bousille complètement son système hormonal par la suite. Donc c'est vrai que c'est drôle. Moi, en l'écrivant, vous savez, j'ai beaucoup ri. Hein.
Mais en le disant, j'ai beaucoup ri aussi.
Ouais.
Mais tout ça, vous l'avez écrit, tout en étant informé maintenant de l'exergue que vous avez inscrit, celui de Marcel Proust, sur l'enfance, sur l'adolescence. Je peux le lire ?
Bien sûr.
Voilà. La caractéristique de l'âge ridicule que je traversais, âge nullement ingrat, très fréquent, est qu'on n'y consulte pas l'intelligence et que les moindres attributs des êtres semblent faire partie indivisible de leur personnalité. Tout entouré de monstres et de dieux, on ne connaît guère le calme. Il n'y a presque pas un des gestes qu'on a fait alors qu'on ne voudrait plus tard pouvoir abolir. Mais ce qu'on devrait regretter au contraire, c'est de ne plus posséder la spontanéité qui nous les faisait accomplir. Plus tard, on voit les choses d'une façon plus pratique, en pleine conformité avec le reste de la société. Mais l'adolescence est le seul temps où l'on est appris quelque chose.
Ouais.
Oui, Marcel Proust.
Je trouve que c'est un très bel hommage à l'adolescence. Et c'est très bien défini. Tout entouré, c'est magnifique ça, tout entouré de monstres et de dieux. Hein, c'est-à-dire que moi j'ai eu ce sentiment-là, c'est-à-dire entouré de monstres, c'était mes angoisses, mes peurs, c'était
aussi... Est-ce que vous montrez que la pilosité, c'est ça?
Bah oui, c'était le monstre en moi. Hein. Et puis il y avait aussi les monstres hors de moi. Donc les monstres, c'est tout le chapitre que j'appelle les misérables, où je vois qu'il y a plus pauvres que moi dans cette banlieue, dans Drancy. Je vois qu'il y a des personnes qui sont devenues, qui sont devenues complètement folles, qui ont perdu la boule. Je vois une misère sociale excessive.
Ça, c'est les grands thèmes du livre pour moi. C'est ce que j'ai noté.
Mais c'est aussi ça, les monstres.
Hein. Comme en mettant compte de la folie ordinaire.
Voilà, c'est ça.
C'est-à-dire vous heurtez
ah oui,
à une
totalement,
folie ordinaire.
Totalement.
Est-ce que vous avez réussi à la... Est-ce qu'elles savent, ces gens qui étaient avec vous quand vous étiez petite à l'école, est-ce qu'elles ont connaissance de vos livres ou pas?
Il y a deux, trois camarades de classe de l'époque qui les ont lus. J'ai eu un retour pour l'instant d'une fille de ma classe qui a terminé la lecture de ce livre et qui m'a dit que ça l'avait plongé dans plein de souvenirs et que ça avait été très émouvant et en même temps dur parce que à nouveau, elle se retrouvait confrontée à cette misère sociale qui existait à cette époque-là, oui, à Drancy, hein, de manière beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que là, ça s'est amélioré quand même, il faut le dire. Mais c'est vrai que nous, à notre époque, on était pauvres.
On va en parler de tout ça, Mariam. Ça va être, qu'est-ce que c'est que cette banlieue? Est-ce que la lutte de classe était morte? Et où est-ce qu'elle est morte? Est-ce que l'axe nord-sud existe? Moi, je pense qu'il existe. On va voir ça de plus près. Et puis, comment ce monde a construit, a fomenté ce qu'on pourrait appeler la folie ordinaire.
Oui, c'est ça.
C'est un des axes de votre livre.
C'est vrai.
Voilà, on écoute un peu de musique
bien
et puis
sûr,
on poursuit
sûr.
L'aventure.
On y enferme de temps en temps, et tout ça s'accouche avec des truands, des capitaines aux yeux si bleus, qu'on voit la France pleurer dedans, des Jeannettes au ventre si blanc, qu'on voit la France bouger dedans, et des Rouges au cœur si grand, qu'on voit la France s'aimer dedans. Paris Cayenne, tu as la dent dure à ceux-là qui sont dedans. Paris la Seine, il y a trop longtemps que tu coules entre deux agents. Paris Cayenne avec tes gants, ça fait plus chic, c'est moins voyant. Depuis qu'en France, pour la reine, prend des allures d'océan. On dit qu'à Frêne, le chien dent voisine avec la fleur des champs. On y promène de temps en temps, dans 4 mètres de murs blancs, des quarantaines de printemps, qui sont en berne des firmaments, aux mains de laine sortent d'enfants. Chaque semaine ça fait 100 ans, la belle que l'on t'attend, un barreau de frêne entre les dents. Paris Cayenne, tu as la dent dure à ceux-là qui sont dedans. Paris la Seine, il y a trop longtemps que tu coules entre deux agents. Paris Cayenne avec tes gants, ça fait plus chic, c'est moins voyant. Depuis qu'en France, pour la reine, prend des allures d'océan. On dit qu'à Frêne, le chien dent voisine avec la fleur des champs. On y malmène de temps en temps dans des arènes de ciment, des fortes têtes aux cheveux blancs qui ont eu le rêve trop entreprenant, des athées qui savent à 20 ans, qui sèment la poudre et récoltent le sang, qu'on ramène à Frêne sans ménagement, voir si d'un Jésus on fait un forban. Paris Cayenne, tu as la dent dure à ceux-là qui sont dedans. Paris la Seine, il y a trop longtemps
que tu coules entre deux agents, Paris-Cayenne avec des gants. Ça fait plus chic, c'est moins voyant. Depuis qu'en France, pour la reine, prend des allures d'océan. On dit qu'à Freine, le chien d'an voisine avec la fleur des champs.
Monique Amoris, enfin non, c'est bien. Hein,
c'est vachement bien.
Ça, c'est magnifique. Du genre Marianne Majidi. Alors, je n'ai pas du tout envie d'expliquer le titre. Chacun y fera ce qu'il voudra avec le titre. Non ? On laisse comme ça ?
On laisse
pour
comme ça.
Pour que je m'aime encore.
Oui, ça ne me dérange pas après d'en parler, peut-être voilà, au fil de la conversation. Hein, mais.
Ouais.
Mais bon,
on verra ça à la fin.
L'histoire du titre est intéressante. J'en parlerai peut-être un petit peu.
Je vais y penser. Donc c'est, j'ai envie de dire, c'était un livre à quatre mains, mais c'est toujours les deux vôtres. Je rassure, vous n'êtes pas un monstre du tout. Je tiens à vous le dire là. Bon, il y a cette petite fille qui est là, qui on va suivre, et puis un peu plus grande, on va suivre la mutation et montant à Paris, etc. Et puis il y a cette écriture en italique qui est l'histoire. Alors là, pour moi, puisque je devrais pas vous dire ça, mais je vais le dire quand même. C'est une histoire d'amour avec la banlieue.
Ouais.
Alors, avant, j'ai jamais fait, mais je vais le faire là. Cette banlieue-là, 93, je la connais par cœur.
D'accord.
Il y a voici peu, j'étais dans une réunion dont j'ai horreur littéraire, et il y avait une femme très, très charmante en face de moi, ce qu'on appelle une bourgeoise littéraire, et qui brusquement me demande où j'avais passé ma jeunesse, et je lui ai dit le nom de la ville. Et elle dit, oh, c'est horrible, c'est pas possible, j'y suis passé la dernière fois, etc. Et moi qui suis assez calme, j'ai eu envie de l'étrangler. Je me suis aperçu que même si c'était une merde, ma ville, même si c'était rectiligne, même si c'était l'ennui, on va y revenir, c'était pas la bourgeoisie.
D'accord.
De toucher à cet endroit-là.
D'accord. C'est une ville du 80.
Oui, c'est la ville qui est à côté.
Bobigny.
Non, Stein.
Courneuf.
Stein.
Ah ouais,
voilà. Stein. Et j'ai failli l'étrangler. C'est pas la bourgeoisie de régler des comptes par rapport à ça. Et j'ai senti, après je vous laisse la parole, j'ai senti par une histoire d'amour entre Drancy. Avec
ah
tout
ouais,
ce que
bien
ça
sûr,
comporte.
Bien sûr. Bah, j'y vis aujourd'hui. Hein.
Encore ?
Bah, c'est le RERB, c'est à
d'accord,
cause de ça.
D'accord,
c'est
bien. Oui, n'en parlez pas de ça, s'il vous plaît. Jamais.
Ah bah oui. Oui, oui, j'expliquerai aussi pourquoi je suis revenue y vivre.
Vous enseignez là-bas ?
J'enseigne dans le 95,
oui.
À Taverny, ouais.
D'accord.
Mais j'ai beaucoup enseigné dans le 93, ouais. Non, mais moi, je suis... Alors, je vais rebondir un peu sur ce que vous avez dit. Alors, ce n'est pas la bourgeoisie... Non, mais en fait, là, bon, si vous voulez, c'est un livre sur la classe sociale, hein, justement. Moi, je crois que le thème, c'est ni l'adolescence, ni la banlieue, c'est la classe sociale. C'est ce déterminisme social, la confrontation de deux mondes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Hein, le monde de la banlieue, une classe sociale modeste, pauvre, défavorisée, précaire. On met les adjectifs qu'on veut, mais on sait très bien de quoi je parle. Et puis, le monde élitiste, de la grande bourgeoisie intellectuelle parisienne. Voilà, moi, ça a été mon expérience, mon personnel.
C'est un axe nord-sud ou pas, selon vous ? Vous n'aimez pas ? Non, mais pour moi, c'est un axe nord-sud, c'est-à-dire c'est pauvre contre riche.
Bah, je ne sais pas.
Vous avez la lutte de classe qui est là. Non ?
Oui.
Allez-y, Marianne.
Oui, mais je trouve que sur l'espace, enfin, sur le territoire de l'Île-de-France, c'est beaucoup plus complexe. Oui, l'axe nord-sud au sens de riche-pauvre.
Voilà, oui.
Bien sûr qu'on le retrouve.
Cultivé, non cultivé. Vous savez, quelqu'un a écrit, la lutte de classe commence souvent par le piano. C'est une phrase terrible.
Oui, mais alors justement, sur la culture, je crois que c'est intéressant aussi de dire que, alors, autant riche-pauvre, oui, hein, je ne peux pas le nier, ça me paraît une évidence, mais il y a aussi autre chose. Les jeunes de banlieue sont cultivés. Mais ce n'est pas ce dont parlait Bourdieu, hein, la culture légitime, de la classe dominante, etc. Voilà, ce n'est pas le piano. Mais ils font du rap, ils font de la musique, ils font du slam. Il y a des textes magnifiques qui sont écrits, qui sont pour moi l'exemple même de la poésie contemporaine aujourd'hui. Voilà. Donc, mais c'est une autre culture. Alors, on va dire la culture urbaine. Moi, je déteste ça. Ce n'est pas de la culture urbaine. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas de la culture de banlieue. C'est de la culture, point. Et c'est beau, c'est esthétique, c'est profond, il y a des choses très belles qui y sont racontées, donc je vois pas pourquoi on est toujours en train de dénigrer cette culture qui serait une sous-culture. Voilà. Moi, je suis pas d'accord. Et donc, moi, je me trouve confrontée à un monde que je pouvais même pas soupçonner. Qui est, comme
mais votre culture à vous lire, j'ai lu deux livres de vous, je vous rappelle quand même, c'est quand même une culture classique que vous avez.
Ben, c'est une culture classique parce que j'ai fait des études de lettres modernes à la Sorbonne.
Je vous avais fait remarquer la première émission qu'on a fait
sur
ensemble.
La langue. La langue, elle est quand même soutenue.
Elle est soutenue tout le temps.
Il y a
une volonté,
il n'y a pas,
il n'y a même pas du tout.
Ouais, non, mais parce que j'aime pas écrire comme ça, en fait. Je sais pas comment vous dire, ça ne me vient
alors,
pas.
Je vais faire une toute petite parenthèse. On va poursuivre, c'est très bien, on va poursuivre notre dialogue, là. À un moment donné, il y a le mot Allen Ginsberg dans votre livre. La Beat Generation, il a la Beat Generation. Mm-hmm. C'est pas une chose qui vous a touché, par exemple.
Moi non, parce que ça c'est le copain en question dont je suis, c'est le mec dont je suis amoureuse.
Eh ben bravo.
Qui est à fond dans ce courant littéraire, on va dire, hein, cette mouvance littéraire. Moi non, il me faisait lire des trucs, ça me parlait pas plus que ça, alors que je prenais vachement plus de plaisir à lire et relire Racine, voyez. C'est une vous avez raison hein, de le dire. Non, mais après je suis une grande fan de Bukowski, voyez. Donc je suis pas non plus uniquement très voilà. Toutes mes lectures sont des lectures classiques, pas du tout. Le dernier livre en date que j'ai lu, Rhapsodie des oubliés de Sophia Hawin, est magnifique. Et c'est une langue, c'est la langue de la rue. Il y a beaucoup d'argot, il y a beaucoup de verlan. Donc voilà. Je suis aussi sensible.
Marianne Madjidi, quand on dit qu'ils sont, cultivés, et je suis tout à fait d'accord. Hein. Si on remonte dans les années bien passées, c'était Evie qui était tenue par le Parti communiste et qui avait veillé à ce qu'il y ait des bibliothèques.
Ouais, le croissant rouge.
Oui, qui avait veillé à des bibliothèques, veillé à des choses comme ça, à des théâtres aussi, etc. Mais dans votre livre, ce qui est constant, qui est récurrent, là, c'est une forme de folie. C'est une forme de folie qui appartient à un certain milieu social.
Mais parce que je pense que la pauvreté peut rendre fou, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas un crime que d'être pauvre, et on le sait tous. Mais quand vous avez le sentiment que la société vous renvoie une image de criminel, bien sûr que ça rend fou. Bien sûr que ça rend fou. Et il y a effectivement le portrait, hein, comme ça,
mais
de personnage.
Ce ne sont pas des criminels. C'est une femme folle qui sort à poil sur un moment donné.
Mais c'est ça, c'est par là, si vous voulez, le poids de la pauvreté qui, je pense, peut rendre fou complètement. Et donc, c'est effectivement cette femme. La folle du bâtiment
c'est
D, voilà, qui pète un plomb et qui sort à un moment donné à poil et fait une crise. C'est ce chauffeur fou qui croit qu'il est toujours en train d'être...
On a l'impression que c'est enfanté par la banlieue. Vous savez, peut-être que je me trompe, il faut faire attention. Je crois que c'est une nouvelle de Stéphane Zweig qui s'appelle La Peur. Mm-hmm. Où c'est une femme adulte qui a trompé son mari. Ça arrive, qui est adultère, qui se balade dans la Vienne où commence à monter le nazisme. Et là, elle est persuadée que le monde est en train de se resserrer sur elle, elle est surveillée de partout, etc. Je veux dire que c'est l'inconscient collectif qui fait ça. Ces folies-là.
Ouais, bien
sûr. Ils sont portés par l'inconscient collectif.
Bien sûr, par un système aussi.
Oui, bien sûr.
Bien sûr, par un système, par des forces qui convergent vers, effectivement, cette idée d'enfermement, de quelque chose qui se resserre sur nous. Et surtout de l'impossible en vol, l'impossible échappatoire. C'est-à-dire hors de la pauvreté. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas une transfuge de classe. Ça, je tiens à le dire.
Ça veut dire quoi? Tiens,
ça veut dire que j'habite pas dans le 6e arrondissement. Je ne vais pas faire des brunchs à la Closerie des Lilas et dîner avec mes amis au Select.
Mais je n'y vais pas non plus, je viens vous le dire.
Voilà. Mais je suis restée, en fait, d'une certaine façon, fidèle. Je dirais à la classe sociale dont
c'est pour
je suis,
ça que je vous dis, quand je vous lis, je trouve une histoire d'amour entre cette ville.
Ouais, je suis pas en.
Bien sûr.
Je suis pas dans le complexe d'atteindre une espèce de richesse, voyez, ou de d'avoir un grand appartement comme ça parisien. Ça m'intéresse pas du tout en fait tout ça. Moi, ce qui m'intéressait étant adolescente, c'était pas de devenir riche. C'était pas ça. C'était d'atteindre une excellence par le savoir. Mmh. C'est pour ça que je voulais faire une prépa. C'était vraiment de me dire, je crois en l'école, je crois en l'apprentissage.
Qu'on appelle l'école républicaine.
Ouais, vraiment.
Et ben, on va le voir. On va écouter un peu de musique, puis on va voir.
Bien sûr.
On va voir ce qui s'est passé, comment ça se passe, est-ce qu'on peut le faire.
Voilà, ah c'est la grande question. Hein. Moi, j'y réponds dans ce
grande,
livre.
C'est la grande question.
Ouais.
Hein, voilà.
Tant qu'il y aura sur la terre des gens qui croiront que l'amour, ça se fait comme on part en guerre, avec une fille en bandoulière et une fleur à la boutonnière. Il y aura des gens qui diront que l'amour, ça vous fait mal aux dents. Des gros gens comme devant qui se prendront pour Don Juan et rouleront dans la mousse en faisant des serments qu'ont pas plus de valeur que du chien dent. Croque la pomme, mon bonhomme, et jette le trognon. Souviens-toi que les gens bien, ça n'aime pas les pépins. L'amour est un moulin qui tourne quand il a faim. Toi la jolie qui m'a appris à dire je t'aime, à dire merci. Toi qui as fait les 400 coups dans mon cœur qui compte les coups. Sais-tu seulement ce que c'est que l'amour? L'amour, tu vois, c'est une cigarette. C'est bon, ça fait pleurer. C'est un accordéon qui vous fait naviguer dans les bras d'un bateau qu'a perdu la boussole en roulant du pôle nord au pôle sud. C'est peut-être le ciel qui s'est trompé de chemin ou une fleur qui a pris ton lit pour un jardin. L'amour, tu vois, l'amour, c'est tout ça et en plus c'est le jour au milieu de la nuit. Et tourne le moulin de tes yeux dans mes yeux. Tant qu'il nous restera un morceau de ciel bleu, nous serons malheureux, malheureux d'être heureux, heureux.
Eh oui, au 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire. C'est charmant, non?
C'est très beau.
Maurice Fanon, hein? Eh bien, toujours avec Marianne Madjidi, pour que j'aime encore aux éditions de Nouvelle Attila. On va quand même, dans la fin de l'émission, prendre le temps de parler du titre, ça je vous promets.
Bien sûr.
On va y revenir. Effectivement, bon, on est dans cette banlieue, eh bien, il faut en sortir. Comment on en sort? Eh bien, soit on fait du Bernard Tapie, puisqu'ils ont seriné qu'il était des bas quartiers, des bas fonds, etc. Et c'est peut-être pas la même histoire, hein. Voilà. C'était pas...
Non, du tout.
C'est peut-être pas la même histoire. Et qu'est-ce qu'il y a? Il reste le savoir, effectivement. Il reste la littérature, il reste le langage aussi. Mmh. Parce que ce qui vous fascine depuis que vous êtes arrivé là, et même avant sûrement, c'est le langage.
C'est la langue, le langage. Et d'ailleurs, le langage est quand même un révélateur très puissant de la classe sociale. Hein. Je veux dire, dès qu'on ouvre la bouche, une personne ouvre la bouche, vous savez tout de suite à quelle classe sociale elle appartient. C'est flagrant. Hein.
Je n'ai pas relu Marx et la poupée parce que j'ai prêté le livre, on ne me l'a pas rendu, je tenais à vous le dire. Mais vous me démentez si c'est ça. Est-ce que ça finit, vous êtes à Téhéran ou à un moment donné, vous êtes dans un taxi?
Oui, c'est la dernière
page.
Et
le chauffeur de taxi vous parle de poésie, c'est ça?
Oui, il me récite un poème de Hafez et je suis très étonnée qu'un chauffeur de taxi me récite de la poésie. Parce que c'est une chose qui ne m'est jamais arrivée en France. Et c'est malheureux. Mais vous savez pourquoi? C'est pas parce que les gens n'aiment pas la poésie. C'est pas parce que les gens ne l'aimeraient pas si on leur permettait d'y accéder. C'est qu'on a rendu tellement élitiste le savoir dans ce pays. Les livres, il y a des gens qui sont effrayés par les livres, qui ne peuvent pas mettre un pied dans une bibliothèque ou une médiathèque. Parce que le savoir fait peur. Parce qu'on a complexé toute une partie de la population par rapport au savoir, justement. Il est là, le problème.
Il y avait un joueur de football qui s'appelait Lizarazu. Mmh. Je ne sais pas si ça vous inspire.
Si, ça, je vois.
Et il dit un jour, il dit c'est cette chose extraordinaire, il dit, moi, je regarde les films, les DVD, avec des histoires, comme ça, je sais ce que racontent les grands écrivains.
Ah oui.
Je crois que c'est une réduction, mais c'est génial.
Mais oui, mais ça en dit long sur le rapport au livre dans ce pays. Et surtout, moi, je l'ai vraiment découvert, ça. C'est-à-dire que cette culture légitime, etc., elle est gardée comme une forteresse. Tout le monde ne peut pas y accéder. Mmh. Mais c'est pas que tout le monde ne peut pas, c'est que on ne veut pas que tout le monde y accède.
On n'a pas intérêt. C'est
ça le pire, en fait. La tragédie, si vous voulez, elle est là. Elle est que on tient de beaux discours, l'égalité des chances, on va donner plus de moyens au collège et au lycée en banlieue, etc. Mais il y a un plafond de verre qui est plus que préservé, plus que gardé.
Et qui continue,
et qui s'épaissit, qui devient de plus en plus imposant, ce plafond de verre, qui est de moins en moins en verre, et on a l'impression que c'est un véritable mur de forteresse, de rempart.
L'ascenseur social, c'est une illusion.
C'est n'importe quoi. C'est-à-dire que, aujourd'hui, en 2021, c'est dans le dernier rapport de l'Observatoire des inégalités, en France, 8,5% des enfants de milieux très modestes atteignent le master, parviennent à aller jusqu'à un master à l'université. Au moment où Bourdieu écrit Les Héritiers, donc en 64, il parle d'un chiffre, il dit que 6% des fils et filles d'ouvriers peuvent faire des études supérieures. Bon, franchement, on parle d'évolution, on parle de progrès, je ne sais pas où... Je ne sais pas où a eu lieu ce progrès, en fait.
On a fait quelques émissions sur les Gilets jaunes, ici, sur Radio Liberté à 89.4. Et moi, j'ai vécu une scène très bizarre, à Nanterre. Et là, il y avait des Gilets jaunes. Je suis tombé sur un groupe qui était composé d'un garagiste, d'un cafetier, des gens comme ça, des gens qui n'étaient pas du tout malheureux. Mais qui n'étaient pas du tout malheureux et qui n'étaient surtout pas très, très enclins à se cultiver. Et là, ils étaient là, en train de revendiquer, prêts à partir sur les Champs-Élysées. Et là, il y avait un pauvre type qui avait vraiment un gilet jaune, parce qu'il était avec un marteau-piqueur dans un trou, qui était un black, etc.
Qui bossait, quoi.
Qui bossait. Et je les ai regardés, je me suis dit, c'est pas possible. C'était impossible.
Ouais, c'est horrible, ce fossé.
Et ceux qui auraient pu être en train d'apprendre, apprendre, c'était sûr qu'ils ne voulaient pas. Et je me suis dit, pourvu que l'homme au marteau piqueur, son fils soit avocat, n'importe quoi. Et là, j'ai repensé, parce que j'étais dans votre livre, quelle était la probabilité de réussite.
Bah oui, mais en fait, il est là le problème. C'est-à-dire qu'on a oublié de s'unir, de se mettre ensemble, de faire en sorte que les luttes convergent, de faire en sorte que la solidarité entre les êtres puisse quand même exister. Chacun prêche pour sa paroisse, quoi. Hein, les gilets jaunes, on va pas s'occuper de l'ouvrier, probablement, peut-être, je sais pas, malien, qui est en train de bosser. Lui, il est avec ses potes aussi. Il est avec ses potes africains, etc. Et puis les blancs ensemble, et puis les noirs de l'autre côté, et puis les arabes aussi là, puis les chinois. Vous voyez, c'est terrible, en fait. C'est-à-dire qu'on a atteint, et surtout, moi, je le vois en banlieue, une forme de communautarisme qui est aussi flippant.
Vous avez vu la haine de Mathieu Kassovitz,
oui, bien sûr.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Bah, la haine, c'était un grand film, parce que c'était un des premiers films qui pointait la caméra sur les banlieues. Donc moi, je me souviens, j'étais ado à l'époque, on était hyper contents qu'il y ait un film tourné dans ces territoires, comme on dit aujourd'hui. Et donc moi, j'étais super super fière, quoi, de me dire enfin le cinéma français montre ses quartiers, ses banlieues, etc., ses cités. Et puis je trouve que voilà, il est hyper bien fait, hyper bien tourné, ce film, le scénario est génial. Mais quelques années après, moi, j'ai déploré le fait que, à chaque fois, le cinéma, quand même, donne la même image de la banlieue. Hein. C'est les courses-poursuites avec les flics, c'est les guerres de gangs, de trafic.
C'est pour aller à l'encontre de ce que vous avez dit il y a quelques secondes. Effectivement, quand vous dites que la banlieue, ils sont cultivés, Kassovitz montre une banlieue à l'état sauvage.
Ouais, voilà. Mais en même temps, on a cette verve, on a ce langage de banlieue, on a cet humour de banlieue qui est montré et qui a une véritable identité. Hein. Il y a la musique aussi qui est là. Il y a une véritable identité aussi de banlieue que la haine dévoile, on va dire. Alors, pas totalement. Mais moi, ce que j'ai déploré en tant que femme, c'est qu'à chaque fois, on avait des films qui sortaient sur la banlieue et c'était des espaces, on a l'impression, uniquement masculins. En regardant ces films, on se dit, il n'y a pas de femmes en banlieue. Ou alors, c'est la copine du gars qui... qu'on pourrait remplacer par un lampadaire. Vous savez, ce test féministe qui dit personnage féminin dans un livre, remplacez-le par un lampadaire, voyez ce que ça change. Et dans les films sur la banlieue, vous remplacez tous les personnages féminins par des lampadaires, ça ne change rien du tout à l'histoire. Donc c'est quand même des films, il faut le dire, sexistes. Mais il faut attendre 2014 pour avoir enfin un film où les personnages principaux sont des femmes. Hein. C'est Bande de filles, 2014, et c'est le magnifique Divine, en 2016. Donc c'est quand même des phénomènes très récents.
On parle de l'humour, le temps tourne, le temps de phénomène de la banlieue, là il y a une définition dans votre livre, parce qu'on saute un petit peu, la petite fille est partie de sa banlieue, elle va faire des études, elle va aller à Fénelon, etc. Il y a une définition que j'ignorais, mais je vais quand même la lire, parce qu'elle est très drôle, et puis on continue dans le livre, d'accord ? Voilà. Je n'avais aucune idée de ce qu'hypocagne et cagne voulaient dire. Bon, marquez-moi non plus. Il m'a expliqué que c'était l'autre nom des classes préparatoires. Ça faisait grec, savant, pharmacopée, mais ça venait d'où ? Alors, ça venait de cagneux, en référence au genou cagneux, tourné et resserré vers l'intérieur. C'est ainsi que les étudiants militaires de Saint-Cyr appelaient les étudiants littéraires des classes préparatoires pour se moquer d'eux. Les genoux cagneux étaient de constitution fragile, ils n'étaient pas sportifs. L'orthographe a été modifiée par les cagneux pour en donner une coloration savante et atténuer la portée moqueuse. Et on saute quelques lignes et votre chapitre s'achève par « Mes genoux étaient cagneux ».
Oui, elle est extrêmement heureuse. Elle y voit un signe. Elle y voit un signe de sa destinée, quoi. C'est vrai que j'ai les genoux qui rentrent légèrement à l'intérieur. Vous voyez, sont incurvés comme ça vers l'intérieur.
Chers auditeurs, sur Radio Liberté, nous avons une information. Marianne Majidi qui a écrit pour que je m'aime encore le nouvel Attila a les genoux cagneux qui rentrent à l'intérieur.
Légèrement comme ça.
C'est bien d'être venue, Marianne.
Vous voyez,
vraiment quelque chose à parler de littérature.
Je pourrais vous montrer mes genoux après comme preuve. Mais voilà, donc c'est un peu comme ça à l'intérieur. Et c'est vrai que moi, ado, je me suis dit, mais voilà, mais c'est un signe, quoi. Enfin, ne cherche pas plus loin. C'est ton destin. Ça a d'ailleurs fait penser à cette parodie des Inconnus. Hein. Manu, tu descends, pourquoi faire ? Bah, je sais pas, c'est ton destin. Voilà. Donc, il y a vraiment cette idée que, voilà, c'était mon destin, il fallait que j'y aille. Bon, tout ne se passe pas comme prévu, évidemment. C'est un véritable échec qui révèle, en fait, à l'héroïne, je trouve, moi, une réalité qui est capital, c'est-à-dire être lucide sur la société dans laquelle on vit.
C'est un grand écart.
Totalement.
C'est le grand écart de la petite danseuse de la couverture.
Non, parce que justement, et c'est là où j'en arrive au titre, bon, c'est pas grave, c'est j'en parle bien, maintenant
bravo,
et on en parle
maintenant,
après.
Allez-y.
C'est que pour que je m'aime encore, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les conditions pour que l'on
déjà,
puisse s'aimer soi-même.
La formulation est bizarre.
Oui. Mais oui, parce que en fait, c'est une phrase ouverte. Pour que je m'aime encore, on attendrait, il faudrait ceci, ceci, cela. Mais en fait, l'acceptation de soi, c'est pour ça que c'est un roman initiatique. Elle part de la détestation du corps, de son corps, d'elle-même, pour aller vers l'acceptation de soi. Et on ne peut s'aimer soi-même que si on accepte sa classe sociale, son prénom étranger, ses parents, l'histoire des parents, et surtout notre identité, c'est-à-dire cette identité qui se construit, qui n'est pas figée, qui n'est pas fixe. Et cette ballerine qui prend son envol hein, sur la couverture du livre, elle le fait au milieu d'un conteneur, elle le fait dans un conteneur, parce que ces conteneurs, pour moi, symbolisent justement tout ce qui pourrait nous enfermer. Vous voyez, tout ce qu'on pourrait définir comme des enfermements comme ça. Et elle, justement, au milieu de ça, elle prend son envol.
Vous savez que je crois que c'est en Hollande où ils ont récupéré les containers pour refaire des habitats.
Mais très belle initiative.
Oui, oui.
Comment on transforme quelque chose de dur, de rigide, de glauque, parce que c'est l'ambiance d'un port, c'est jamais très glamour, vous voyez. Comment on transforme tout ça pour, voilà, le renouveler. Là. Moi, je trouve ça.
Votre premier chapitre, c'est Adversaire. Ça fait penser, bien sûr, au film de Nicole Garcia, que moi j'ai.
Bien sûr, c'est un clin d'œil.
C'est un clin d'œil. Hein, c'est-à-dire, l'adversaire, c'est soi-même. Mais est-ce que lorsque vous arrivez à Paris, là, j'ai envie de dire, monter à Paris, tiens,
voilà. Est-ce
que l'adversaire, ça ne change pas de visage? Est-ce que ce n'est pas la classe sociale que vous allez trouver qui va devenir votre véritable adversaire?
Bah, c'est les déterminismes sociaux qui, d'un coup, oui, deviennent. Alors, pas forcément les adversaires ou les ennemis, parce que elle, elle a très peur. Moi, j'ai jamais considéré les élèves de la prépa comme des ennemis. Je les ai même trouvés dignes de compassion, hein, parce que moi, ils me faisaient de la peine aussi. C'était pas des, je décris une fête qui se passe en prépa dans ce deuxième roman. Franchement, ça donne pas envie hein, de faire la fête avec eux. Mmh. Ils vont pas très bien non plus, ces gamins-là. Ils ont aussi une pression sociale monstrueuse sur leurs épaules, avec l'obligation de réussir et de porter le nom très haut, très loin. Bon, c'est pas non plus une vie de légèreté et d'épanouissement absolu. Hein. Donc, elle se rend compte aussi de ça. Donc, c'est pour ça que c'est pas des ennemis. Je considère pas les bourgeois comme mes ennemis. Je considère pas les intellos bourgeois comme mes ennemis. Je trouve que je ne raisonne pas en termes d'ennemis, d'amis en politique. Je n'aime pas du tout cette conception de la politique en amis et ennemis. Ça ne me convient pas.
Mais en adversaire, oui.
Mais je sais pas comment vous dire. C'est. L'adversaire est invisible, en fait. C'est pas un visage humain, voyez. On ne peut pas dire, tiens, ce visage humain-là, c'est l'adversaire. C'est un système qui est derrière ça. Moi, je pense qu'il faut à un moment donné nommer les choses, quoi. On parle tout le temps de trucs post-colonial. Mais c'est le capitalisme qui cause ça. Pourquoi les gens ne le nomment pas? Ils parlent de... littérature post-coloniale. Nous dénonçons le post-colonial. Mais dénoncer ce qui a été à l'origine de tout ce merdier. C'est quand même dingue qu'on ne nomme pas les choses. Donc moi, si vous voulez, mon ennemi ou mon adversaire, c'est ce système capitaliste qui fait croire qu'il y a une égalité des chances, alors qu'en fait, pas du tout. C'est la reproduction des inégalités.
Mais pour revenir au départ de la conversation, on ne nomme pas non plus ce qui a fait Zemmour. Parce que Zemmour a été fait par un monde médiatique.
Totalement.
Un capitalistique.
À qui on. Oui, bien sûr. Voilà. On lui a tellement donné la parole qu'au bout d'un moment, il atteint cette popularité-là, presque, vous voyez.
Il y a une forme d'aliénation de faire dire à des gens, puisqu'il parle, puisque vous le voyez, ce qu'il dit est juste.
Bien sûr. Et c'est pour ça qu'en fait, pour moi, l'ennemi ou l'adversaire, peu importe comment on l'appelle, c'est toujours c'est toujours quelque chose d'abstrait. C'est-à-dire que c'est un système, sont des idées, sont des valeurs qu'il faut défendre ou qu'il faut attaquer. Mais c'est pas un être humain. Moi, je m'en fiche, si vous voulez, de Zemmour. Aujourd'hui, c'est Zemmour, demain, ça sera un autre. C'est pas là, c'est pas sur lui que les choses doivent se concentrer.
Petite parenthèse, vous savez que Flaubert, qui appartenait au monde de la bourgeoisie et qui a fréquenté la bourgeoisie et sérieusement tous les milieux de Napoléon III, écrit quelque part qu'il a qu'une seule idée. C'est de ruiner la bourgeoisie.
Oui.
C'est génial.
C'est les paradoxes. Mais je crois que tous les auteurs ont des paradoxes hein, de ce type-là. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait de Céline. Donc Céline, individu abject. Et en même temps, dans Voyage au bout de la nuit, moi, j'ai jamais lu autant d'humanisme, autant d'amour de l'humanité là-dedans. C'est très curieux, comme ce paradoxe hein, très fort en lui. Mais je crois qu'on a tous nos zones paradoxales. Et donc, moi, ce que j'ai vraiment voulu montrer à un moment donné dans ce livre, c'est qu'on arrête de mentir. Voilà. Qu'on arrête de dire l'école républicaine est basée sur l'égalité des chances. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je voudrais juste qu'on dise la vérité aux établissements qui sont dans ces zones d'éducation prioritaires. Et moi, je dis, mais il y a rien de prioritaire là-dedans, bien au contraire. Ce sont des zones d'éducation précaires. Je voudrais qu'on dise la vérité à ces jeunes qui sachent pertinemment, qu'ils aient une connaissance très juste, exacte et profonde de la société inégalitaire.
Vous donnez le pourcentage de gens venant des banlieues. Vous n'avez pas le...
Les quotas.
Les quotas, pardon.
Alors voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'on accepte en prépa, dans les lycées très prestigieux, on accepte toujours un petit quota de banlieue, vous voyez. C'est pour se donner bonne conscience. Donc nous, on était 3 du 93 et 1 du 94 en prépa sur 60 élèves. C'est un infime... Voilà, pourcentage. Hein. Mais quand même, il faut accepter, parce que sinon, alors là, on dirait que les gens diraient que c'est vraiment un système inégal. Donc, ces petits quotas, ces petits pourcentages, ces gens qu'on montre venant de milieux défavorisés qui ont réussi, ça m'énerve plus que tout. Et les médias adorent faire ça.
La bonne conscience.
C'est la bonne conscience des privilégiés. Mmh. C'est pour que ceux qui n'ont pas fait, entre guillemets, grand-chose pour réussir, se donne bonne conscience.
Je vais vous faire un aveu. Ce matin, je suis allé au bistrot. Et c'était la conversation au bistrot sur Bernard Tapie. Qu'est-ce qu'il est courageux, du milieu d'où il vient, etc.
Bernard Tapie, c'est devenu une figure populaire, et notamment à travers le foot. Donc, je pense que... comment vous dire ? C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure sur l'adolescence à travers Proust, tout entouré de monstres et de dieux. Je crois qu'il faut laisser les monstres et les dieux au peuple, aux gens qui ont envie de croire en telle figure plutôt qu'en telle autre. Ça me dérange pas, moi. Moi, ce qui me dérange, c'est quand derrière une figure qui devient populaire, il y a clairement une volonté politique d'insuffler comme ça des idées d'extrême droite. Ça me dérange.
On va écouter un dernier morceau de musique et on va reprendre sur un autre chemin. Et je vais vous dire pourquoi, à un moment donné, j'ai failli déchirer votre livre, le réduire en morceaux. Mais je ne l'ai pas fait car vous êtes bien rattrapé quelques pages plus tard sur Radio Libertaire 89.4.
Ah, j'ai peur là.
Elles ont 15 ans, les yeux plus grands que le ventre. Elles ont 15 ans, plus de grâce que d'élégance. Elles ont 15 ans, les mains trop longues pour leurs manches. Les filles de mon enfance, mes petites nymphes de plate-bande, mes petites amours dans les grandes. Elles ont des cheveux qu'on lave le dimanche, des sourires peureux, mi-pervers, mi-pervenche. Elles ont des oiseaux jusqu'au creux des hanches. Les filles de mon enfance, mes petites nymphes de plate-bande, mes petites amours dans les grandes. Elles ont 15 ans au retour des vacances. Elles ont 15 ans et sont déjà si grandes. Elles ont 15 ans, c'est à n'y rien comprendre. Les filles de mon enfance, mes petites nymphes de plate-bande, mes petites amours dans les grands. Elles ont des regards plus voilés que septembre. Elles ont des baisers plus mouillés que novembre. Des langueurs solitaires plus blanches que décembre. Les filles de mon enfance, mes petites nymphes de plate-bande, mes petites amours dans les grandes. Elles ont 15 ans, la première romance. Elles ont 15 ans et toutes les patiences. Elles ont 15 ans, c'est ça leur importance. Les filles de mon enfance, mes petites nymphes de plate-bande, mes petites amours dans les grandes. Elles savent déjà
sans avoir à prendre. Elle donne déjà, sans jamais reprendre. Et quand l'amour s'en va, elle pleure en silence. Les filles de mon enfance, mes petites nymphes de plate-bande, mes petits amours dans les grands.
Merci mademoiselle Monique au 01 43 71 89 40. Donc ben, toujours avec Marianne Majidi. Hein. Maintenant qu'on sait les origines du titre, ou du moins la signification pour que je m'aime encore, aux éditions du Nouvel Attila. Donc je lis ce livre, Marianne, et je dis tiens, elle parle de Transy, et j'en arrive à la page 127, elle ne parle pas de quelque chose. Alors, j'ai pris le livre, je l'ai déchiré, puis comme on devait faire l'émission, je l'ai recollé. J'ai dit, mais comment on peut ignorer ce qui s'est passé à Drancy? Voilà, et effectivement, page, vous vous rattrapez juste dans la page 129. Soudain, une dame a surgi et nous a hurlé dessus en brandissant sa canne. Elle nous a traités de petits imbéciles qui ne respectaient rien. Elle nous a dit qu'on était ignorants et idiots, qu'on ne pouvait pas jouer avec ça, qu'il fallait le respecter. On a trouvé ça drôle qu'elle surgisse de nulle part et qu'elle secoue sa canne en criant des phrases bizarres auxquelles on ne comprend rien. Certains copains ont pouffé de rire et alors elle a explosé, elle s'est rapprochée de nous à petits pas saccadés, sa canne comme une épée qu'elle pointait sur nous, elle a haussé la voix et elle nous a fixé du regard avec des yeux écarquillés, elle criait que c'était comme si on insultait la mémoire de tous ces morts, elle répétait les morts, vous comprenez, les morts, tous ces enfants comme vous, morts, morts, et qui jouaient ici comme vous et qui sont morts. On voyait ses yeux devenir rouges, les larmes monter, sa voix trembler, chaque mot était comme un bibelot de porcelaine qu'elle jetait par terre et qui se brisait devant nos baskets usées aux semelles décollées à force d'avoir tapé dans le ballon. C'est le fameux...
Oui, mais alors...
Après c'est dit.
Non,
après.
Non. Alors, première page du livre, oui. Je parle de Drancy.
D'accord, oui. Oui, d'accord, mais le wagon.
Bah, le wagon, le tunnel et le pont.
Voilà.
Le pont...
Faut dire ce que c'est peut-être...
Alors, Marianne. Au tout début du livre, je parle... du pont de Drancy en disant « Allez sur le pont, vous entendrez les fantômes crier ».
Ah, c'est ça, d'accord.
Ça donne déjà quand même la couleur. Ensuite, quelques pages plus loin, l'héroïne est sur le pont de Drancy. Il y a un arc-en-ciel, etc. Le pont est décrit. Alors, ce n'est pas une référence, si vous voulez, directe, mais quand même, on le sent. Et ensuite, il y a le wagon, effectivement, qui est le plus direct. Et à la fin du livre, le tunnel... que les prisonniers avaient creusé, etc. Donc, évidemment que, pour moi, c'était inconcevable d'écrire une adolescence qui se déroule à Drancy sans parler du camp de Drancy, de la mémoire historique de Drancy.
J'avais environ 11 ans, ou peut-être 12, je ne sais plus exactement. Je me suis retrouvé devant une plaque où l'on pouvait lire que sous terre, à cet endroit, des hommes avaient creusé un tunnel long de 36 mètres pour s'échapper du camp. J'ai immédiatement baissé les yeux et vu une allée de pavés gris sous mes pieds plantés dans le sol qui continuait sur une dizaine de mètres puis s'arrêtait. J'ai lu la dernière phrase écrite sur cette plaque. Il leur manquait 3 mètres pour atteindre la liberté.
Ouais.
C'est beau ça, non?
Ouais.
C'est tragique, oui.
C'est donc évidemment que voilà, je pouvais pas ne pas le dire.
Voilà.
Parce que ça fait partie de la mémoire et du passé de cette ville. Par contre, ce qui est quand même terrifiant dans le chapitre où je parle du wagon, c'est que nous avons 10 ans et nous jouons au foot devant ce wagon parce qu'on ne nous a pas dit ce que c'était. C'est-à-dire qu'il y a une transmission qui ne s'est pas faite. C'est en classe de 3e où j'apprends que ce qui est aujourd'hui la cité de la Muette, c'était le camp de Drancy. Il est là aussi le problème.
Non, mais c'était...
C'est-à-dire que si on ne dit pas, on peut pas en fait reprocher à quelqu'un son ignorance. Ça, c'est pas possible. Mais donc on ne savait pas. Ah bah tiens, il y a un wagon, on va jouer au foot. Et cette dame surgit en nous disant, mais vous pouvez pas faire ça. Mais nous, on comprenait pas.
je croise pour des raisons, ça sert à rien de les raconter, une dame qui a 50 ans, qui vient du 93, qui est d'origine maghrébine, qui ne sait pas ce que c'est la Shoah. Qui pense que Hitler est mort en Amérique du Sud parce qu'elle a vu une émission sur je ne sais pas quelle chaîne et elle ne sait pas ce que c'est la Shoah.
Ben voilà, mais c'est ça, c'est terrible, c'est terrifiant. C'est-à-dire qu'il y a une mémoire de notre passé collectif parce que cette dame, elle est concernée par ça. C'est aussi son histoire, c'est aussi son affaire. Moi, je suis désolée, là, c'est de la responsabilité collective. Mais on ne peut pas le lui reprocher si personne ne lui a dit, si elle ne sait pas, si elle ne l'a jamais appris
si
à l'école.
Menti, si on lui a menti en disant qu'Hitler était mort en Amérique du Sud.
Donc, vous voyez, c'est des choses comme ça, en fait, contre lesquelles il faut lutter. Il me semble que l'école a la responsabilité de lutter contre cette forme-là d'ignorance.
Mariam, il reste très peu de temps, on va être très 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 bref. Il y a un mot qui revient, c'est le mot happy few.
Privilégiés.
Oui, les privilégiés. Mmh. Et pourtant, vous rappelez quand même que Stendhal, à la fin de La Chartreuse de Parme, que je suis sûr que vous avez lu et aimé, non ?
J'ai détesté La Chartreuse de Parme.
C'est vrai, vous avez pas, j'ai mal tombé, d'accord ? Il dit « to the happy few ». Qu'est-ce que ça signifie pour vous en littérature, le happy few ?
Le happy few, c'est... C'est les privilégiés, c'est le lecteur qui sait de quoi on lui parle.
Et vous trouvez que Stendhal, c'est quelque chose pour Happy Few ou pas ?
Bah, l'écriture de Stendhal, elle est absolument pas accessible à tout le monde. Mmh. Donc ça reste quand même des livres peu accessibles, des livres...
Elle n'est pas au programme scolaire.
Il faut être quand même initié, non, c'est les initiés, les Happy Few, vous voyez, c'est les initiés, c'est ceux qui savent de quoi on leur parle, qui ont eu une formation
solide.
Elle n'est
pas au programme scolaire, Stendhal, dans la Chartreuse, dans le Rouge et le Noir, non ?
Moi, je l'ai étudié en fac, mais en fac. Pas au lycée, okay. Heureusement, parce qu'on ne peut pas accéder à ça, en fait, quand on est collégien ou lycéen. C'est très extrêmement difficile, surtout. Par rapport à l'histoire racontée. Enfin, bon, passons, je ne suis pas là pour faire pour attaquer ou critiquer Stendhal, mais le happy few, c'est ça.
C'est ça, le happy few, d'accord. Ouais. Et il y a un mot qui revient, qui est récurrent, qui sous-tend aussi le livre, c'est le mot ennui.
Ouais.
L'ennui... Qu'est-ce que vous mettez dans le mot ennui ?
Le vide, l'impossibilité... De trouver un sens à l'existence. Et donc, c'est pour ça que l'ennui, ça n'est pas que négatif. C'est effectivement le vide existentiel, mais c'est aussi la recherche de quelque chose qui pourrait briser l'ennui. Et c'est un moteur très puissant, l'ennui. Moi, c'est clairement ce qui m'a poussée à aller vivre à l'étranger, à quitter ma banlieue, à aller à Paris, à aller à Pékin, à aller à Istanbul,
à écrire,
etc. Donc, c'est quand même un moteur aussi très puissant.
Dans ces banlieues-là, quand on se quitte, il y a toujours un personnage qui vous sauve la vie, entre guillemets. Et là, vous avez une bibliothécaire qui est très sympathique.
Ouais, Maryse, de la petite cité.
Elle sait que vous écrivez.
Elle est plus en vie.
Ah, parce que oui.
Ouais, elle est plus en vie, mais je suis sûre qu'elle sait l'importance qu'elle a eue pour nous, évidemment. Elle le savait de son vivant, j'en suis persuadée.
Alors bon, c'était un plaisir, Mariam Majidi.
Plaisir réciproque.
Jamais encore. C'est un livre qui recouvre plein de phases, hein, aussi bien sociales, politiques, littéraires, et c'est très très agréable à lire. Et je maintiens ce qu'on m'a dit, c'est une danseuse orientale, car c'est pas pesant du tout.
Bon, voilà. Je suis heureuse de l'apprendre.
Donc vous pouvez revenir sur Radio Libertaire,
89.4,
c'est au Nouvel Attila. Hein, ouais. Voilà, pour que je m'aime encore. Bye bye, à bientôt.
Au revoir.
Nous avons perdu notre technicienne, qui va revenir. Merci. Je croyais qu'on avait enlevé Monique, mais non, on ne nous l'a pas enlevé. Puis si elle nous l'a enlevé, on paiera la rançon. Vous allez cotiser pour la rançon.
Ah, évidemment, pour Monique.
On la veut pour Monique.
diable et le bon Dieu en nous tous les deux. Que l'on soit blanc, noir, jaune ou bien feu, on s'y accommode. Comme on dit là-bas, ça ira mieux dans un siècle ou deux. Mais ne t'y fie pas, car ça vaudrait mieux qu'il n'y ait diable ni Dieu. Que l'on soit jeune, mûr ou bien vieux, triste ou heureux. Qui est le plus mal et qui le mieux en nous tous les deux. Comme on dit là-bas, ça ira mieux dans un siècle ou deux. Mais ne défie pas, car ça vaudrait mieux qu'il n'y ait diable ni Dieu. Chacun sa route et l'on fait de son mieux, mais qu'en pleurent les yeux. Comme on dit là-bas, ça ira mieux dans un siècle ou deux. Mais ne t'y fie pas, car ça vaudrait mieux qu'il n'y ait diable ni Dieu. Comme on dit ou deux, mais ne t'y fie pas, car ça vaudrait mieux qu'il n'y ait diable ni Dieu, qu'il n'y ait diable ni Dieu.
Tous ces gens de toutes les couleurs qui traversent le temps, les yeux pleins de soleil, de rêves et de printemps. Tous ces gens qui n'ont jamais le temps de s'aimer à jamais, de s'aimer tout le temps. Ils se frôlent, ils se touchent, ils se parlent, et pourtant c'est un grand bal costumé, c'est la grande soirée de la vie. Chacun son masque posé sur son air déguisé. Qui est qui ? Est-ce chacun pour soi ? ces gens, tous ces gens, tous ces gens. Tous ces gens pas contents de s'être fait piéger par la vie, par le temps, de s'être fait voler tous leurs rêves d'enfant. Tous ces gens, tous ces gens, tous ces gens maintenant. C'est tous les métissages et tous les croisements. C'est la grande famille du monde à présent. C'est une valse venue de pays inconnus à jamais. C'est une grande cohue, la marée des brebis égarée. Mais tout changé, pourquoi est-ce très bien comme ça? Comme ça. Vai, 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 vai. Tous ces gens, tous ces gens. Tous ces gens, tous ces gens, tous ces gens, et toi et moi dedans. On sait plus ce qu'on donne, on sait plus ce qu'on prend. On sait plus ce qu'on fait si on s'aime vraiment. Tous ces gens, tous ces gens, tous ces gens, tout le temps. C'est comme un arc-en-ciel à chaque moment. C'est le jaune et le rouge, le noir et le blanc.
We'll be right back.